Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 13 août.
Lee Jae-myung se rendra au Japon les 23 et 24 août. Kim Gon-hee placé en détention provisoire. Et enfin, UNESCO 17 offre 250 000 dollars pour la jeunesse.
Le chef de l'État sud-coréen Lee Jae-myung se rendra au Japon les 23 et 24 août pour un sommet avec le premier ministre japonais Shigeru Ishiba. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du bureau présidentiel cet après-midi. C'était lors d'un point de presse. Kang Yoo-jung a rappelé que les deux dirigeants s'étaient convenus en juin dernier de relancer rapidement la diplomatie de la navette avant de souligner que Séoul espérait que ce déplacement contribue à renforcer leurs liens personnels et la confiance mutuelle. Selon la rencontre devrait permettre de consolider les bases d'un partenariat tourné vers l'avenir entre les deux pays, d'aborder les moyens de renforcer la coordination bilatérale ainsi que la coopération trilatérale avec Washington et d'échanger ouvertement sur des questions régionales et internationales liées à la paix et à la stabilité.
Kim Gon-hee a été incarcéré dans la nuit de mardi à mercredi à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre par le tribunal du district central de Séoul. Ce dernier a justifié sa décision en déclarant que l'ancienne première dame était susceptible de détruire des preuves. L'équipe du procureur spécial Min Jung-ki soupçonne l'épouse de Yoon Suk-yeol, entre autres, de trafic d'influence, ainsi que d'avoir violé la loi sur les marchés des capitaux et celle sur le financement politique. Elle avait requis sa mise en détention jeudi dernier, une demande approuvée par la justice hier après plus de 4 heures d'audition de la suspecte. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle de la Corée du Sud qu'un ex-club présidentiel est placé simultanément derrière les barreaux. Yoon étant déjà incarcéré depuis le 10 juillet dans le cadre de l'enquête sur sa déclaration de la loi martiale en décembre. Dans la classe politique, les réactions sont partagées. Dans un communiqué publié immédiatement après l'émission du mandat, le Minju s'est félicité de la décision du tribunal, la qualifiant de raisonnable. Du côté du parti du pouvoir du peuple, le PPP, Kim Moon-soo a dénoncé un outrage inédit dans l'histoire constitutionnelle du pays et un règlement de compte politique de la part du président Lee Jae-myung. Dans ce contexte, l'équipe du procureur spécial Min devrait intensifier ses investigations. Dans la demande de mandat de détention, seules 3 des 16 accusations portées contre l'ancien première dame ont été retenues. Manipulation des actions de Deutsche Motors, ingérence dans la nomination de candidats électoraux et trafic d'influence en échange de pots de vin versés par l'église de la réunification. Des soupçons relativement faciles à étayer. Les enquêteurs devraient désormais s'attaquer à d'autres dossiers plus complexes tels que les traitements de faveur présumés dont aurait bénéficié la famille de Kim dans des projets de développement urbain à Yangpyeong, la manipulation boursière de Sambo Construction ou encore diverses suspicions entourant Kim Yesang, un proche de l'épouse de Yoon. L'une des tâches prioritaires consiste à établir son implication directe dans ces affaires dont les contours se précisent progressivement, ainsi qu'à déterminer le rôle éventuel de l'ex-chef de l'État. Une mission qui s'annonce difficile, d'autant plus que sa femme a nié en bloc toutes les accusations lors de son premier interrogatoire le 6 août et que Yoon continue de refuser de se présenter aux convocations des procureurs. Dans le cadre de ces enquêtes, l'équipe du procureur Min a procédé ce mercredi à une perquisition dans les locaux du PPP.
Aujourd'hui, le comité présidentiel de planification nationale, organe chargé de définir les priorités de l'exécutif, a présenté la feuille de route de Lee Jae-myung pour les 5 années à venir. Le document décline la vision nationale en 3 principes, 5 objectifs et 123 tâches à accomplir, assorties de mesures de financement et d'un calendrier législatif. La vision proposée est un pays où le peuple est souverain, une Corée unie et heureuse, et s'appuie sur 3 orientations. L'écoute et l'unité, l'équité et la confiance, ainsi que le pragmatisme et les résultats. Ces orientations s'articulent autour de 5 objectifs visant à instaurer une politique unificatrice, bâtir une économie innovante de rang mondial, promouvoir une croissance équilibrée pour tous, renforcer le fondement social et défendre les intérêts nationaux dans les domaines diplomatiques et sécuritaires. Pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, le gouvernement prévoit de créer un comité national de stratégie pour l'avenir rattaché à la présidence.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la KCNA. C'est la première fois qu'un échange téléphonique entre l'homme fort de Pyongyang et un chef d'État étranger est révélé par les médias du régime. Lors de la discussion, Kim III a affirmé rester toujours fidèle à l'esprit du traité signé entre les deux alliés et qu'il soutiendrait pleinement toutes les décisions que la Russie prendrait. De son côté, Poutine a évoqué la participation de soldats nord-coréens à la guerre en Ukraine. Il a rendu hommage à leur courage, à leur héroïsme et à leur esprit de sacrifice lors de la libération de la région de Koursk, tout en saluant le soutien porté par Pyongyang. En parallèle, le président russe a félicité son interlocuteur pour le 80e anniversaire de la libération de la Corée, qui lui a exprimé ses sincères remerciements.
Aux États-Unis, le département d'État a déploré la persistance de la grave situation des droits de l'homme en Corée du Nord. Dans son rapport annuel 2025 sur la situation des droits humains par pays, publié ce mardi, il accuse le régime de Kim Jong-un de maintenir son contrôle sur la nation en recourant à la brutalité. Le document souligne que, au cours de l'année écoulée, aucun changement majeur n'est intervenu et que Pyongyang n'a pris aucune mesure crédible pour identifier et sanctionner les responsables des violations des droits fondamentaux. Il indique également qu'il existe des rapports crédibles faisant état d'exécutions arbitraires ou illégales, de disparitions, d'actes de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de pratiques médicales ou psychologiques coercitives, ainsi que d'arrestations ou détentions arbitraires.
Et pour refermer ce chapitre, le gouvernement sud-coréen envisage de ne pas publier cette année son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme en Corée du Nord. Un responsable du ministère de la Réunification a indiqué mardi que plusieurs options étaient à l'étude à ce sujet. Il a ensuite ajouté que les nouveaux témoignages recueillis depuis la sortie de l'édition 2024 étaient peu nombreux. Selon lui, la plupart des transfuges nord-coréens séjournent pendant une longue période dans un pays tiers avant d'entrer sur le territoire sud-coréen, ce qui rend difficile la collecte des déclarations significatives sur la situation actuelle au nord du 38e parallèle. Depuis 2018, année de promulgation de la loi sur les droits de l'homme en Corée du Nord, le ministère publie chaque année un rapport sur la situation des droits fondamentaux dans le royaume ermite, s'appuyant sur des témoignages recueillis auprès des réfugiés. Sous le président progressiste Moon Jae-in, le contenu du document était gardé confidentiel, compte tenu des risques de divulgation d'informations personnelles concernant les transfuges et d'atteinte aux relations intercoréennes. Mais depuis 2023, le gouvernement conservateur de Yoon Suk-yeol l'a non seulement rendu public, mais aussi diffusé une édition en anglais pour sensibiliser la communauté internationale.
Et pour terminer, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée hier, le boys band sud-coréen Seventeen a fait don de 250 000 dollars à l'UNESCO. Selon son agence, cette somme provient d'une vente aux enchères caritatives Jupiter Presents, Sakai et Seventeen et vise à renforcer le programme mondial de subvention pour la jeunesse créé conjointement par le groupe masculin et l'organisme onusien. Seventeen est actuellement ambassadeur de bonne volonté pour la jeunesse auprès de l'UNESCO. Le groupe a déclaré que ces journées avaient une signification particulière pour lui, puisqu'il exprime les multiples facettes de la jeunesse à travers sa musique, avant d'adresser un message de soutien à tous les jeunes poursuivant leurs rêves dans le monde.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ohayang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.